Ça va? Vous avez bien commencé l'année? Les estomacs se sont un peu purgés, les systèmes digestifs un peu vidés, ça y est. Il y a tellement d'abondance dans ces fêtes. C'est une image du ciel, c'est vrai. C'est une image du ciel, toute cette abondance. Et en même temps, j'ai vu un post Facebook qui m'a vraiment parlé, où il y avait une image de la crèche et de Jésus et Marie et Joseph pardon, qui surplombe la crèche, comme ça, la mangeoire, pardon. Et ça disait, le petit texte disait, le premier Noël était très simple, c'est pas un souci si le tien l'est aussi. Et ça m'a vraiment parlé que c'est excellent de se retrouver en famille, de partager des bons vins, des bons mets succulents. Tout le monde a pris du soin pour préparer. Il y a une abondance, mais en même temps, le premier Noël, il s'est passé dans une étable, dans la paille, dans les odeurs d'une étable, autour d'une mangeoire. Là où le roi des rois a décidé de venir naître. Notre sauveur, la lumière, on a parlé de Hanouka avec Rémi la dernière fois, la lumière du monde. Et c'est beau de voir comme les jours ont commencé à rallonger. Ce matin, je sentais vraiment Dieu me parler, j'étais parti courir très tôt le matin. Et la lumière se lève un peu plus tôt maintenant qu'il y a 2-3 semaines, le jour commence à poindre et je sentais ce signe, ça y est. Noël est passé, la lumière du monde, Jésus est venu. Et je sentais aussi, c'est nous la lumière du monde. Et nous aussi, cette lumière, on l'amène partout où l'on va. Amen. Du coup, ce matin, j'avais une bonne nouvelle pour vous. J'avais une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime. Amen. Yeah, ah, super, il y en a qui réagissent, c'est super. Et ce matin, comme je vous l'ai dit, on va commencer une nouvelle série de messages qui s'appelle « Disciples en trois dimensions ». Alors, je ne l'ai pas dit, toutes mes excuses à notre cher technicien, mais j'ai envoyé à l'adresse dite mon diaporama. On essaye de progresser, donc maintenant, on a une adresse mail spéciale technique où on peut envoyer tout ce qui doit être projeté. Donc, une nouvelle série. On a passé plusieurs mois sur David. Et maintenant, ses disciples, alors vous savez que Jésus est appelé fils de David, c'est l'héritier de David. Et on va passer une série sur qu'est-ce que ça veut dire d'être ses disciples, couvrir plein d'aspects très concrets, très différents. Et vous connaissez ce verset, pour ceux qui étaient à la conférence Cœur du Père, Simon en a touché un mot, même pas mal parlé. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »« Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » dans Matthieu 4, verset 19. Parce que être disciple, ça se passe en trois dimensions. Il y a souvent des choses qui marchent par trois avec le Seigneur, le Père, le Fils, l'Esprit. Trois dimensions. Une dimension verticale, une dimension intérieure et extérieure. La dimension verticale, suivez-moi, c'est moi, c'est Jésus, c'est Dieu, on est tourné vers lui. Une dimension intérieure, une dimension extérieure, je vous ferai pêcheur d'hommes, l'appel, d'accord? Donc la dimension verticale, ben, vous avez compris, on le répète souvent, c'est cette connexion à Dieu, c'est cette cultiver la présence de Dieu, comme Olivier vient de le dire. On est un peuple qui est marqué et qui doit être marqué toujours plus par la présence de Dieu. Que quand on se réunit, il se passe quelque chose. On n'est pas juste des êtres humains réunis ensemble. La présence de Dieu est parmi nous. Il nous a dit qu'il serait toujours avec nous. Il n'est pas menteur, il est là. Mais cultiver, vraiment se positionner pour être touché par sa présence. La dimension intérieure, je regarde parce que j'ai fait un super visuel, j'ai fait un visuel pour montrer ça, mais il va venir, je le sais. Et la dimension intérieure, donc comme je disais, la dimension intérieure, deux choses très importantes. Le caractère et la communauté. Vous êtes d'accord que grandir en caractère tout seul, c'est très compliqué? Par contre, quand j'ai des amis chrétiens imparfaits comme moi, avec moi, ça m'aide vraiment à progresser dans mon caractère. C'est une des raisons très importantes pour l'Église aussi. Et pourquoi Dieu a choisi que son royaume soit manifesté par l'Église? C'est parce que quand on est réunis en communauté, non seulement on se régale, franchement on se régale, mais en plus, ça nous aide à grandir, ça nous aide à progresser. Donc cette dimension intérieure de disciple, c'est caractère et communauté. L'importance de l'église locale. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça vient certainement de mon éducation. J'ai grandi avec une passion de l'église locale. Et vraiment, mon cœur, c'est de vous transmettre cette passion. Et la dimension extérieure, l'appel. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Si être chrétien se résume à cultiver la présence de Dieu et être en église, toujours réuni dans les quatre murs d'une église, est-ce qu'on a accompli la mission que Dieu nous donne dans Matthieu 28? d'aller, de faire des nations des disciples. Non, bien entendu. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est impossible. Si on cultive la présence de Dieu, on va forcément aller. Parce que quand on est avec lui, il nous parle et son cœur, c'est d'aller toucher ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc vraiment, cette dimension extérieure, cette dimension vers l'extérieur, de cultiver la présence de Dieu et de se laisser transformer pour aller toucher ceux qui nous entourent. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. L'importance de donner. Vous savez, j'avais entendu cette image qui m'a beaucoup parlé, la différence entre le lac de Tibériade, la mer de Galilée, et la mer morte, c'est que du lac de Tibériade sort le Jourdain. Et du coup, ce lac, il y a cette grosse rivière, qui, enfin, au début grosse en tout cas, donc ça donne, si vous voulez, le lac, il ne reste pas figé en lui-même, il se déverse dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on regarde, ce lac de Tibériade ? Il est plein de poissons. Il y a une vie, il y a une végétation autour. C'est magnifique pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est extraordinaire. À la différence de la mer morte, qui ne débouche, la mer morte, en fait, si vous voulez, elle suit, il y a le lac de Tibériade, le Jourdain, qui arrive à la mer morte. Et la mer morte, où est-ce qu'elle va après ? Nulle part. Ça s'arrête dans le sable. Et qu'est-ce qui se passe avec la mer morte ? Elle est morte. Et pour ceux qui ont eu pareil la chance de pouvoir y aller, quand on se baigne dedans, déjà c'est compliqué d'aller sous l'eau. Le sel, il y a beaucoup de sel en fait, et il n'y a pas du tout de vie. Il n'y a aucun poisson qui peut vivre dans cette concentration de sel. C'est très rigolo de lire le journal allongé dans la mer morte parce qu'on flotte beaucoup plus que dans de l'eau normale. Donc l'importance de donner, on n'est pas chrétien uniquement pour soi, on est chrétien, on est touché par Jésus, on est transformé pour bénir tous les lieux que l'on foule de notre pied. Amen. Vous êtes très sage ce matin. Soit c'est parce que vraiment ça vous captive et ça vous fait réfléchir, soit c'est parce que vous êtes un peu fatigué. Je préfère, j'espère, en la première des deux phrases. Super. Donc là, ce que je viens de faire... Ah, oh, magnifique. Est-ce qu'on peut juste remontrer mes deux petits visuels qui sont juste avant? Ah, merci les gars. Donc voilà. Pourquoi ça? Pourquoi le sigle qui est au milieu, en fait, est très important. C'est le sigle Play, vous savez, sur lequel on appuie pour jouer un CD, une cassette. Bon, ça n'existe plus trop. Mais il y a ce sigle-là. Et ce sigle-là, il va vers l'avant. Et quand on veut suivre Jésus, disciple, c'est suivre Jésus. C'est cette discipline, c'est d'être avec Jésus et de le suivre dans tout ce qu'il nous dit d'être et de faire. Eh bien, quand on veut aller de l'avant, quand on veut mettre play sur notre vie, eh bien, il y a ces trois dimensions. Verticale, suivez-moi et je vous ferai intérieur, pêcheur d'hommes, extérieur. Donc ça, c'est super important de retenir ce sigle. Et en fait, si vous voulez, tous les messages qu'on va faire dans cette série, il y aura toujours un sigle comme ça qui représentera le sujet du message. Donc ça, c'est par rapport à l'introduction de cette série. Et là, maintenant, je vais plonger dans ce que j'ai à vous partager aujourd'hui pour la nouvelle année. Dieu m'a vraiment parlé pendant ces vacances. On était réunis en famille et Dieu m'a vraiment parlé sur faire les bons choix, sur ce mot de choix, sur faire les bons choix. Et c'était vraiment très personnel. Vous savez que Noël, bah, c'est excellent, on se réunit en famille, entre amis. Personnellement, ça n'a pas été des fêtes de Noël très faciles. On a, voilà, dans nos familles, des fois, il se passe des choses et du coup, il faut les gérer. Et des fois, ça tombe au moment de Noël. Donc, ça a été un peu le cas pour moi, ce qui était difficile, mais en même temps, une énorme opportunité d'être très proche de Dieu, de chercher son secours, de chercher sa présence. Et dans ces temps que j'ai passés avec lui, il y a toujours ce mot de faire les bons choix ou cette image de faire les bons choix. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais peut-être ça n'est pas que pour moi. Et j'ai vraiment eu à cœur de vous partager ça dans les quelques minutes qui nous restent ensemble. Et donc la bonne nouvelle en fait que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, on parle de résolution pour le nouvel an. En 2020, tu peux faire les bons choix. Tu peux faire les bons choix. En 2020, tu peux faire des bons choix. Peut-être que dans le passé, tu as fait des mauvais choix, des bons choix aussi, mais sache qu'en 2020, les bontés de Dieu se renouvellent encore cette année et tu peux, grâce à lui, faire les bons choix. Il y a une page blanche qui vient de se tourner. Qu'est-ce que tu vas choisir d'écrire dessus avec le Seigneur ? Parce qu'il y a ce mensonge, j'ai pas le choix. C'est une phrase que j'entends tout le temps et que j'ai appris à détester. Pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai pas le choix. On a toujours le choix, les amis. On a toujours un choix à faire. Et cette année, avec le Seigneur, tu peux faire les bons choix pour ta vie, pour ta famille. Est-ce que tu sais que, comme le dit la parole, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi. C'est pour ça que tu peux faire les bons choix. Pas par tes propres forces, ni par puissance, ni par force, mais par lui, par son esprit. En 2020, tu peux faire les bons choix. Amen. J'ai un passage à vous lire, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je le lis en entier ou pas ? Je vais le lire en entier, normalement il va s'afficher, je ne sais pas si ça sera assez gros pour que vous puissiez lire. Voilà, suivez avec moi. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment ? Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de Dieu. Comme si on pouvait se cacher de Dieu. Parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Et vous connaissez la suite de l'histoire, toute cette série de malédictions qui tombent sur Adam et Ève, qui ont choisi, en l'occurrence, de faire le mauvais choix. Le mauvais choix. Ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Je voulais juste dire un mot sur ce qui se passe en suivant, avant d'aller plus loin. Ce qui est extraordinaire dans le livre de la Genèse, c'est que tout est déjà là. Quelques versets plus tard, verset 15, au milieu de ces malédictions, juste avant d'ailleurs, « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme. » Donc il parle à Satan, il parle au serpent. « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme et ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et tous les théologiens s'accordent pour dire que celle-ci t'écrasera la tête. La descendance d'Ève, qui est la descendance d'Ève ? Jésus va écraser, quelques milliers d'années plus tard, la tête du serpent. Ça veut dire qu'au milieu, il y a ces malédictions, il y a ces conséquences du péché qui sont là. Mais déjà, le plan du salut est révélé. Waouh ! Extraordinaire. J'aime la souveraineté de Dieu, j'aime la force de Dieu. Qui, à peine l'erreur est commise, Satan, je pense, doit se réjouir un tout petit peu. Paf ! Chaos. Pas debout, parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout, c'est un serpent. Mais faire les bons choix. Et toujours, j'aime à me rappeler que si j'avais été à la place d'Adam, j'aurais fait la même bêtise, on aurait fait la même bêtise. Il y a cette chose du serpent qui arrive et qui trouble l'esprit d'Adam et Ève et leur font croire qu'ils vont manquer de quelque chose s'ils obéissent à leur créateur. Et du coup, la première chose que je voulais vous dire par rapport au choix, c'est qu'il y a une règle, qui est un principe, qui est comme ça, c'est que tout choix amène des conséquences. Bien sûr, des conséquences positives, heureusement, mais aussi des conséquences négatives quand le choix n'est pas le bon. Amen. Et le choix de désobéir d'Adam et Ève à ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'on dit, dans l'histoire, on dirait que c'est Ève qui a fauté en premier, mais c'est à Adam que Dieu avait dit par rapport à ses arbres, etc. Il lui avait donné la responsabilité, Ève n'existait pas encore. Ils ont choisi. Et il y a des conséquences. Et j'ai réalisé en étudiant un peu ça qu'il y avait des conséquences dans ces trois domaines dont j'ai parlé. Le domaine intérieur, domaine extérieur et ce domaine aussi, cette dimension verticale. Le choix d'Ève puis d'Adam provoque toute une série de malédictions. Et la première des malédictions, il y a cette isolation. Il y a ce fait d'être coupé de la présence de Dieu. Mais ils s'en coupent même les premiers parce qu'ils vont se cacher. Et donc tout de suite, il y a une conséquence sur cette relation verticale avec le Père. Il y a une isolation, il y a une séparation qui se produit. Au verset 16, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Ça veut dire que vraiment dans le cœur d'Adam et Ève, il y a vraiment des douleurs qui vont résulter de ce choix-là. Et ça, c'est cette dimension intérieure. Le cœur va être broyé, il va y avoir comme des blessures de l'un à l'autre, une domination qui n'était pas du tout prévue au début comme ça. Donc le cœur va être touché, c'est cette dimension intérieure. Et verset 17, « Puisque tu as écouté la femme, que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu tireras la nourriture tout au long de ta vie. » Dieu avait demandé à Adam et Ève de se multiplier et d'envahir la terre, d'entretenir la terre, d'être dans ce jardin, de profiter de ce jardin, de manger de tous les bienfaits. Et là, d'un coup, la terre est rendue infertile et du coup, le travail, la dimension extérieure, la mission qu'Adam et Ève avaient, d'un coup, est rendue beaucoup plus difficile. Il y a des conséquences sur la dimension extérieure. Le but d'Adam et Ève, c'était que la terre entière ressemble au jardin d'Éden. Cultiver ce royaume, cette présence de Dieu partout où ils étaient. Mais à cause de ce choix, il y a aussi des conséquences sur la dimension extérieure. Verset 15, les mauvais choix, on le voit, produisent la mort. Et c'est pareil pour nous, les mauvais choix produisent la mort. Heureusement, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir forcément, mais il y a comme un esprit de mort, il y a comme quelque chose, des effets de la mort qui se produisent. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ne sont pas morts, mais les effets de la mort ont commencé à se manifester. L'isolement, j'en ai parlé. Mais le problème des choix, donc je vous ai parlé de cette première règle, il y a une autre règle, c'est qu'on est obligé d'assumer ces choix. Et souvent, on essaye de ne pas les assumer ou c'est difficile de les assumer. Mais malheureusement, quand il y a les conséquences des choix, eh bien, quand ces conséquences sont mauvaises, on se retrouve avec des dégâts qui peuvent être variés. Mais on est là et il faut faire quelque chose. On peut fuir, c'est vrai. Le problème de quand on fuit, c'est qu'au moment où on revient, tout est encore là. Expérience de vie. Et quand on fait les mauvais choix, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que bon, le but de mon message ce matin, ce n'est pas de vous casser le moral. je vous rassure. Et du coup, j'ai identifié une stratégie qui, je pense, nous vient de la parole pour la bonne attitude quand on a fait les mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix, on en fait probablement tous les jours, on essaye de faire les bons, mais malheureusement, on se trompe. Ok, on a fait un mauvais choix. Quatre étapes, j'ai appelé ça les quatre R. Ils sont là, magnifiques. Reconnaître, réaliser, réparer, rééduquer. Reconnaître. La première étape importante, c'est de reconnaître. J'ai fait un mauvais choix. Parce que souvent, on fait un mauvais choix, mais on va dans notre tête faire le forcing pour se persuader qu'on n'a pas fait un mauvais choix ou alors qu'on n'a pas fait exprès. Non, reconnais. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde. Mais ne t'obstine pas. Arrête-toi et reconnais. Oui, je me suis trompé. J'ai fait le mauvais choix. Réaliser. Réaliser, c'est vraiment regardez quelles sont les répercussions, quelles sont les conséquences. Tu as réalisé que tu t'étais trompé, c'était, ce qui se passe là me montre que vraiment ce n'était pas le bon choix. Ok, établir un peu une liste des conséquences de ce mauvais choix. Sur quoi ça a influé? Qu'est-ce que ça a produit? En mon cœur, dans ma famille, chez mes amis, autour de moi, dans mon église, à mon travail, quelles sont les répercussions de mon mauvais choix? Parce que grâce à Dieu, c'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les quatre R. de la repentance, c'est parce que la repentance est beaucoup plus que demander pardon à Dieu. La repentance est tout un cheminement qui va amener la vie. Amen. Il y a cette rédemption, encore un R, qui vient avec cette repentance. Réparer. Et oui, réparer, ça va passer par demander pardon. Reconnaître, réaliser, ok, à qui je vais pouvoir demander pardon ? Mais souvent, demander pardon, ça ne va pas suffire. On va pouvoir faire des actions concrètes qui vont me permettre de réparer la bêtise que j'ai faite. Parfois, les bêtises sont tellement grandes qu'on a l'impression de rien pouvoir faire. Tu as toujours le choix, tu as toujours une attitude de cœur, peu importe ce que tu as fait. Et le dernier R, c'est rééduquer. Et en fait, c'est ça le réel sens de la repentance. Repentance du grec metanoia, ça veut dire changer. Il y a cette idée de changement. Avant, j'étais comme ça. Repentance, je deviens comme ça. Je me rééduque. Le Saint-Esprit renouvelle mon esprit, renouvelle mon intelligence. Je change, je suis changé par l'action de l'Esprit. Et du coup, mes actions vont être différentes. Et la vraie repentance, c'est celle où on ne reproduit pas ce qu'on a fait une première fois. Très souvent, les enfants, j'adore mes filles, mais très souvent, et ben, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Et d'ailleurs, excusez-moi, je suis le premier comme ça en fait. Dieu me reprend en même temps que je vous dis ça. On demande pardon pour quelque chose, mais très souvent, on va le reproduire encore une fois. Est-ce que cette demande de pardon était réelle, sincère, profonde ? Presque, il vaut mieux ne pas demander pardon. D'abord, tout de suite, réfléchir. Quelles sont les causes de ce mauvais choix, de cette mauvaise action, de ce péché ? D'où ça vient ? Pourquoi j'ai péché ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui a fait que je me comporte comme ça ? Amen ? La repentance, la rédemption, c'est quelque chose qui est profond et qui fait qu'on ne va plus reproduire la chose parce que Dieu nous a changé. Dieu a renouvelé notre intelligence. Ça, c'est tout ce qui est de la dimension intérieure. Je pense que Adam et Ève ont eu peur. Satan, le serpent, les a tentés. Il y a eu cette tentation, on en a parlé la dernière fois que j'ai prêché. Il y a eu cette tentation, et il y a eu une peur qu'on peut tous expérimenter, je pense aujourd'hui, la peur de manquer quelque chose. Ah, il y a quelque chose de nouveau, lui me donne une nouvelle information que je n'avais pas. Il y a cette peur. Et vous serez d'accord avec moi, la peur, l'amour parfait bannit la peur. Peur et amour sont peut-être les deux plus grandes forces à l'œuvre dans l'univers. L'amour parfait bannit la crainte. La seule crainte qui est bonne, c'est la crainte de Dieu. L'amour parfait bannit la peur. Parce que quand on a peur, on fait très souvent des mauvais choix. Ça nous rend très souvent même bête d'avoir peur. Je pensais à ça, à l'exemple. Vous savez, quand quelqu'un prend feu, il y a des gens qui, par accident ou par peu importe la circonstance, sont d'un coup enflammés, leurs vêtements en synthétique prennent feu. Qu'est-ce que font les gens ? En général, on voit ça dans les films, ils se mettent à courir. Évidemment, la pire chose à faire, parce que non seulement tu t'éloignes d'un secours éventuel, mais en plus, ça attise les flammes. Plutôt que choix intelligent, se mettre par terre, être couvert par quelqu'un pour étouffer les flammes. Quand on a peur, malheureusement, on fait des mauvais choix. C'est pour ça, les amis, je vous encourage ce matin, ne laissez aucune place à la peur dans votre vie. Il y a sûrement il y a des choses dans nos cœurs. Et ce matin, il y a des choses dans ton cœur. Tu as peur de t'en occuper, parce que c'est douloureux, parce que quand on met le doigt dessus, ça fait mal. Tu as peur de t'en occuper. Ne laisse pas l'ennemi te diriger avec cette petite douleur-là, quand on a pu, ou cette grosse douleur d'ailleurs. Ne laisse pas cette douleur, ne laisse pas cette peur te tenir prisonnier. Il veut te libérer cette année. Il veut te libérer. Il veut te guérir tes peurs. Il veut guérir l'objet de tes peurs. Amen. Et là, c'est la vie qui va pouvoir couler. Et du coup, j'avais quelque chose de... Je voulais parler... Moi, j'avais envie d'être très concret ensemble ce matin. Comment faire les bons choix ? C'est un peu prétentieux de dire ça. Mathieu, ça y est, ce matin, va nous expliquer comment je vais régler tous les problèmes de ma vie, comment je vais faire les bons choix. Non, je pense que c'est des choses que voilà, le Seigneur m'a dit, révélé, mais des choses qu'on trouve très, très facilement dans la Bible. Et j'ai envie de revenir sur ces trois dimensions. Ces trois dimensions, voilà. Regarde Deutéronome 30, excusez-moi. C'est pas le bon verset, je crois que c'est le 19 en fait. Enfin bon, peu importe. Oui, c'est 19. J'ai mis devant toi, écoutez-moi parce que c'est faux, c'est pas un faux, mais c'est pas ce verset que je voulais citer. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et on a toujours le choix et comment faire les bons choix. Et voilà, je voulais revenir sur ces trois dimensions. D'abord, cette dimension verticale. Il y a des moyens de toujours faire les bons choix. J'en suis convaincu, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. C'est comme de dire, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix et il n'y a jamais de fatalité avec le Seigneur. C'est le Dieu qui change le mal en bien. Écouter Dieu, obéir. Ben là, clairement, Adam et Ève, il y a eu un souci là-dessus. Mais comment savoir tu es une brebis. Il y a un verset qui dit, Dieu, Jésus, c'est notre bon berger. Tu es une de ses brebis, tu entends sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Écoute-le. Si tu es à lui, si tu as placé ta confiance en lui, si tu es disciple, tu peux vivre ces trois dimensions. Tu es à lui, tu entends sa voix. C'est un fait. Arrête-toi et écoute. Parle avec tes amis. Bon, ça, j'en parle après. Mais on peut entendre la voix aussi en parlant avec les amis. Mais juste écoute. L'identité précède l'action. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. Il y a ce changement d'identité qui fait qu'on peut devenir pêcheur d'homme. Comme Jésus au moment de son baptême. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et là, il a pu démarrer son ministère. En Jésus, tu n'es plus esclave. C'est pour ça que tu as toujours le choix. Tu n'es plus esclave. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi. Tu n'es plus esclave, tu es libéré, tu peux faire les bons choix. Et si quelqu'un te dit le contraire, ne le crois pas, c'est un mensonge de l'ennemi. Refuse ce mensonge. Tu peux faire les bons choix. Tu as été libéré de cet esclavage. Et du coup, l'adoration, quoi, les amis. Si tu veux faire les bons choix, moi, je ne sais pas, mais je sais pas vous, mais moi, quand je passe du temps à louer mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, les heures qui suivent, tout est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile avec moi-même, si j'ai des choses à l'intérieur douloureuses. C'est beaucoup plus facile avec ma famille, et c'est beaucoup plus facile avec tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour les autres personnes qui sont en ma présence aussi quand j'ai loué Dieu. En tout cas pour ma femme, et je suis sûr mes amis proches, ils vous confirmeront, je pense. Mais loue et Dieu. C'est vraiment ça, c'est la priorité. Cette dimension verticale, c'est la priorité numéro un. Et vous savez, il y a des fois je tombe sur des petits schémas et tout d'ordre de priorité dans la vie. Oui, c'est d'abord Dieu, puis la famille, puis l'église, puis le travail. Oui, il y a du vrai là-dedans. Mais ça me satisfait pas complètement cet ordre-là. Parce que si tu fais de l'éternel tes délices, si tu mets Dieu en premier, si tu passes du temps à chercher dans sa parole, à le louer, à l'adorer, d'office, comme tu vas pouvoir faire les bons choix, donc les priorités vont naturellement se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose où tu vas te forcer de dire « oui, je dois faire ci, je dois faire ça ». Ça va venir, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Si tu dois passer plus de temps avec ta famille, Dieu va te le révéler dans ces temps. Si tu dois changer d'attitude au travail, si tu dois demander pardon à un collègue, si tu dois plus t'investir dans l'église, tout ça, c'est ne te force pas. Ne te force pas, ça ne sert à rien de se forcer. Enfin, ça peut marcher un peu sur le moment, mais ou alors force-toi, mais poussé par l'esprit. Cherche-le, lui, adore-le, fais de l'éternel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche-le, lui, et cherche son royaume. Et là, il va te guider et tu vas prendre les bonnes priorités. Ça va venir naturellement. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas à réfléchir 10 ans pour faire les bons choix. C'est naturel pour nous. On est des nouvelles créatures, on est enfants de Dieu. Donc faire les bons choix et mettre les bonnes priorités dans notre vie, c'est quelque chose qui est naturellement acquis pour nous par notre statut de fils et de fille de Jésus, de Dieu. Amen. Souvent, je trouve qu'en tant que chrétien, on se prend énormément la tête. On se prend le chou. Oh, mais ça, mais si, mais ça. Loue Dieu. Laisse tout de côté, loue Dieu. Prends ta guitare si tu en as une, ton piano, ton triangle. Mets un CD. Si tu chantes faux, monte le son. Loue Dieu. Amen. Il y a aussi cette dimension intérieure. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que me répète souvent mon ami Olivier, un verset qui est devenu central aussi dans ma vie. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Que la paix instaurée par le Christ. Si tu es à Jésus, la paix est venue entre toi et lui. Il n'y a plus de colère. La paix. Et cette paix, c'est probablement le signe du bon choix. S'il y a un signe, s'il y a une sensation, un truc à rechercher, on n'est pas là en train de « oui, je ressens ça, il m'a dit ci, elle m'a dit ça », non. La paix. Tu as un choix important à faire, financier, relationnel. Je m'adresse aux jeunes, ils me posent souvent la question quand on fait des réunions de jeunes et tout, comment t'as su que c'était la bonne ? Vous savez, mais c'est vrai, c'est normal, on se pose cette question. Comment tu sais que... La paix. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur ? Il n'est pas chrétien. Est-ce que ça te stresse ? C'est probablement pas une bonne idée. Est-ce que tu as la paix de Dieu ? Est-ce que vraiment, en ton âme et conscience, tu peux dire « je suis en paix » ? Pas une paix oh, « ça y est, je suis en paix, c'est bon. » Non. Est-ce que tu as une vraie paix ? Waouh ! Où tu te sens enfin toi-même. Est-ce que quand tu as... Je ne vous regarde pas trop les jeunes, je parle là, mais bon, c'est pour nous tous. Il y a des couples qui se forment sur le tard aussi, c'est important. Est-ce que quand tu parles à tes parents, de ton copain ou de ta copine, tu es en paix ? Est-ce que tu peux être toi-même ? La paix. J'avais d'autres exemples. Est-ce que, ben voilà, tu es prêt à signer ce prêt pour cette maison ? Est-ce que tu es en paix ? Ou est-ce que tu te forces à être dans la paix ? La paix, c'est vraiment le signe par excellence. L'authenticité, voilà, la redevabilité, on le répète tout le temps, entre amis, il y a quelque chose dans ton cœur, tu ne sais pas quoi faire, ou tu as fait des dégâts, l'authenticité, la redevabilité. Trouve quelqu'un, parle-lui, hein, et lui va t'aider, lui va avoir ce regard extérieur, va peut-être même pouvoir te confronter. Voilà comment on fait les bons choix, en louant Dieu, en laissant Dieu travailler notre cœur et cette dimension extérieure. Parce que ben voilà, on est en action, donc on va souvent faire des erreurs. Si on est immobile, c'est sûr, on risque moins de faire des erreurs, mais on va aller nulle part aussi. Mais il y a ce verset pareil qui me tenait vraiment à cœur par rapport à cette dimension extérieure, ces missions que Dieu nous donne. Dieu t'a placé dans un travail, une famille. Il a une mission particulière pour toi. Faire les nations des disciples prend toute forme de sortes différentes. On marche par la foi et non par la vue. Tu veux faire les bons choix dans cet appel que Dieu a pour ta vie, dans la mission que Dieu a pour ta vie, quel travail, comment bénir mes voisins, la foi. Marche par la foi et non par la vue. Écoute-le et ensuite mets-toi en marche. Des petits conseils pratiques pour ces trois dimensions, mais de manière vraiment très, très concrète. Parce que ben voilà, dans ces bons choix, comment des petites techniques pour faire les bons choix ? On a dit que le mauvais choix d'Adam et Ève avait amené la mort. Amène la vie, toi. Toi qui as la vie du Seigneur en toi. Toi qui as cette rivière de vie qui coule en toi. Amène la vie. Résiste à la tentation de dire des ragots, de médire. Résiste. C'est tellement tentant. C'est tellement tentant. Ça vient tellement vite. Résiste à la tentation. Ça nous est arrivé même de devoir s'éloigner de certaines personnes parce qu'à chaque fois qu'on était ensemble, ça partait dedans, ça partait dedans, ça partait dedans. Résiste à la tentation de me dire « Amène la vie, là tu ne pourras jamais te tromper. » Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4, 6. Je vous l'ai déjà dit. Refusez le mensonge que tu n'as pas le choix, je vous l'ai déjà dit. Attention aux distractions. Ça c'est aussi important. Si le diable, si l'ennemi ne peut pas te détruire, il va te distraire. Il va t'emmener sur quelque chose d'autre. D'où l'importance de faire les bons choix, de ne pas se laisser distraire. En tout cas, c'est mon cas, j'ai 10 000 nouvelles idées par jour à peu près. J'ai envie de partir là, de faire ci, de faire ça. Et si on faisait ci, l'équipe pour l'église, ils doivent souvent un peu me canaliser parce que j'ai toujours plein d'idées. Mais faire les bons choix, c'est aussi résister à la tentation d'être distrait. Non, Dieu a une mission pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette mission ? Focalise-toi, ce n'est pas 10 000 choses. Ça va être une chose, deux choses, trois choses peut-être. Mais ça ne va pas être beaucoup de choses. Résiste à la tentation de la distraction. Je vais très rapidement finir parce que j'ai surtout envie qu'on prie. Qu'on prie parce que c'est bien de parler de ces choses-là, mais le but c'est qu'on mette tous ça en pratique. Et peut-être que tous on progresse, que des domaines de notre vie on n'arrivait pas à faire les bons choix. Et bien en 2020, dire on va faire les bons choix, mais ni par puissance ni par force, grâce à Dieu. Amen. Et du coup, j'avais cette petite phrase que j'ai notée, et je vous invite à la noter, si ce n'est pas sur vos portables ou là où vous prenez des notes, c'est dans vos têtes, dans vos cœurs, le message est enregistré. Ma destinée future réside dans les petits et grands choix que je fais aujourd'hui. Ma destinée réside dans les petits et grands choix que je fais aujourd'hui. Des fois, on se dit « Ah, mais plus tard, ça ira mieux. » Non, plus tard, ça se décide aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain, non, maintenant. C'est maintenant que ça se décide. Et le Saint-Esprit va faire un travail dans ton cœur ce matin. Parce que ta destinée future réside dans les choix que tu vas faire aujourd'hui. De tout mon cœur, je ne veux vraiment pas vous mettre sous pression ce matin. Mais j'espère qu'il y a une légère et douce, aimante pression du Saint-Esprit dans vos cœurs. Pour vous pousser juste à faire ce pas, ce choix, ces petits choix. Où te vois-tu dans 10 ans? Fermez les yeux, les amis, s'il vous plaît. Fermons les yeux. Est-ce que Estelle, tu peux venir au piano? Merci. Où te vois-tu même dans 5 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Imagine-toi. Parce que tu avais peut-être des rêves, des aspirations, des désirs, mais aujourd'hui tu en es loin. Et bien sûr, tout ne vient pas d'un coup. Il y a toujours un processus, il y a toujours un chemin. Et bien sûr, c'est le chemin qui a même souvent beaucoup plus d'importance que l'objectif. Mais toi, peut-être que tu as des objectifs, tu as des rêves. Où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Où te vois-tu même dans 20, 30 ans? Est-ce que c'est seul? Une fois, quand j'étais encore saisonnier, je travaillais en station de ski. C'était une époque où je faisais énormément la fête, je m'étais éloigné de Dieu. Et une fois, j'étais dans un bar à Tignes, un bar en sous-sol. Et je suis arrivé dans ce bar, enfin j'étais dans ce bar. Et d'un coup, j'ai vu un homme, un moniteur de ski que je connaissais de vue, accoudé au bar. Et d'un coup, paf, ça m'a heurté. J'ai eu l'impression que ça pouvait être moi dans 20 ans, 25 ans. J'étais assez jeune à l'époque, mais j'ai eu comme cette révélation, comme ce sérieux d'un coup qui est venu, et j'ai dit, ben oui, si je ne fais pas de changement dans ma vie, c'est possible que Dieu bénisse cet homme, mais c'était hyper triste de le voir seul. Il devait avoir une 50aine d'années accoudé à ce bar, tard, très très tard le soir, même tôt le matin. Et là, et ça a fait partie des étapes qui ont permis mon retour à Jésus. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous poser cette question ce matin. Où te vois-tu dans 10 ans? Tu vas arriver dans 10 ans à l'endroit où tu veux, si aujourd'hui tu fais les bons choix. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là où tu te vois dans 10 ans, ça se décide aujourd'hui. Et bien sûr, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Tous les jours, c'est possible de redémarrer à zéro. Mais pourquoi pas démarrer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever, les amis, s'il vous plaît? Alors, tu as encore les yeux fermés, écoute-moi bien. Je sentais vraiment qu'il y avait des mensonges. Il pouvait y avoir des mensonges dans nos cœurs. Il peut y avoir des mensonges dans ton cœur. Cette phrase, « j'ai pas le choix ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation et tu te dis « j'ai pas le choix ». Je voulais vraiment conduire dans c'est pas un exercice, mais juste de refuser ça. Refuser ça, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Refuse que tu n'as pas le choix. Tu chasses ce mensonge dans le nom de Jésus. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous n'êtes pas obligé de le dire fort, mais que vous puissiez prononcer avec vos lèvres. Je refuse, répétez après moi, je refuse le mensonge que je n'ai pas le choix. Et vous pouvez nommer la situation que le Saint-Esprit vous a révélée. Peut-être c'est par rapport à des finances. Peut-être c'est par rapport à ton travail. Peut-être c'est par rapport à ta relation, à tes relations. Je refuse le mensonge que je n'ai pas le choix. Et une fois que vous avez bien chassé ça avec le Saint-Esprit de vos cœurs, refusez avec énergie. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut une énergie, il faut vraiment une intentionnalité. Vous pouvez accueillir la vérité. Oui, j'ai le choix. Oui, le Seigneur a mis devant moi la mort et la vie. Je choisis la vie. Je choisis de faire de lui mes délices. Je choisis de faire le bon choix parce que je pense que pour beaucoup, il vous a déjà parlé. Et au fin fond de vous, vous savez quel est le bon choix. Et peut-être c'est dur, mais il va le faire avec toi. Et si tu ne peux pas avancer, il va te porter. Mais ça demande que tu ouvres ton cœur. Il ne te forcera pas. Oui, j'accepte cette vérité que j'ai le choix. Que Dieu, tu le fais en moi. Seigneur, tu le fais en moi. Avec toi, j'ai toujours le choix. Tu m'as libéré. L'ennemi essaye de t'isoler, de te tenir enserré. Là où est l'esprit, là est la liberté. Tu es libre. Et je veux vraiment briser dans le nom de Jésus tout lien qui peut t'entourer ce matin, tout lien qui te retient prisonnier de faire les bons choix. Dans le nom de Jésus, que ces liens soient brisés maintenant. Saint-Esprit, merci Jésus. Et je sentais aussi que ce matin, on débute l'année, c'est un nouveau départ pour faire de nouveaux choix. Et peut-être que tu as donné, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Christ dans le passé. Et ce matin, tu te dis, ben voilà, mon premier choix de 2020, c'est de choisir de devenir une de ses disciples, un de ses disciples. De lui ouvrir, de reconnaître mes mauvais choix et d'ouvrir la porte de mon cœur. Mais peut-être aussi que tu lui as déjà donné ta vie dans le passé. Mais que malheureusement, il y a eu un éloignement, un isolement qui est venu par la suite. Et qu'aujourd'hui, en ce début d'année 2020, tu veux à nouveau être en paix. Tu veux avoir la paix, tu veux ressentir cette paix qui vient avec la proximité avec Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu veux choisir de redonner ta vie. Si tu fais partie d'une de ces deux catégories, j'aimerais te demander de lever la main. Parce que j'ai envie de prier avec toi. Merci. Merci. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Si on a toujours le choix, les amis. Et le choix, tu pourras le faire demain. Il y a 3-4 personnes qui ont levé la main. On n'est pas obligé de tous. C'est sérieux, les amis, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu veux repartir d'un nouvel élan, d'une nouvelle manière, tu veux te laisser transformer. Lève ta main si tu veux redonner ta vie à Christ. Tu poses un acte. Oui, je choisis, je fais le choix aujourd'hui. Amen. Et bien ceux qui ont levé la main, je veux juste prier pour vous 30 secondes et puis on aura l'opportunité de reprier à la fin aussi. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont levé la main. Merci pour ce choix qu'elles font. Merci parce que nous sommes des êtres puissants comme toi. Il y a cette puissance créatrice. Et alors que ces personnes ont fait ce choix, il va y avoir des nouvelles conséquences. La vie va à nouveau couler. Merci Seigneur. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es à nouveau en paix avec Dieu. Ce n'est pas que tu n'étais plus en paix avec lui, mais c'est que cette paix, c'était comme estompé. Mais je prie pour que cette paix remplisse ton cœur à nouveau. Et l'Esprit va te parler sur des domaines de ta vie, des domaines de ta vie où il a du travail à faire en toi. Mais ça va être bon, ça va être bien. Il va te libérer. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remettre maintenant toutes les personnes présentes dans cette salle. Est-ce qu'on peut étendre les mains ensemble comme un signe d'ouverture de notre cœur? Seigneur, je te prie pour chacune et chacun ici ce matin. Merci parce que tu es en train de travailler nos cœurs. Et il n'y a pas de fatalité avec toi. Et Seigneur, pour tout le monde, je veux vraiment proclamer en ton nom une année avec des nouveaux choix. Une année où le renouvellement que tu fais en nous va produire des nouveaux choix. Et ces choix vont porter du fruit.
Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec ces choix, c'est qu'ils vont porter du fruit au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Dans nos enfants, dans nos petits-enfants, et pour des générations et des générations. Je relisais ce matin Abraham. Le Seigneur lui a dit « Quitte ton pays ». Il a fait le choix, il a obéi. Et le Seigneur lui a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et aujourd'hui, nous sommes là, 4000 ans plus tard. Parce que lui a fait un choix. Et bien ce matin, je te bénis pour faire les bons choix. Et les bons choix que tu vas faire vont aussi avoir une portée éternelle. Merci Seigneur pour les fruits, Seigneur. Merci parce que dans la dimension verticale de proximité avec toi, de louange, d'adoration, dans la dimension intérieure de laisser nos cœurs être travaillés par toi, vont nous permettre d'aller, Seigneur. Parce que ce monde a tellement besoin de toi, Seigneur. Ce monde a tellement besoin de nos bons choix. Et ce matin ensemble, nous choisissons